Bonjour Morin Picard.
Bonjour.
Vous avez enquêté pendant plusieurs années sur la mort de Dag Hammarskjöld. Selon vous, le crash de son avion en septembre 1961 n'est pas un accident, mais un assassinat. Qui serait, selon vous, derrière cette conspiration?
Eh bien, une conspiration internationale qui rassemble des intérêts miniers anglo-belges de l'époque, qu'on appelait l'Union minière du Haut-Katanga, des espions britanniques, français, belges, sud-africains aussi peut-être, et des mercenaires de plusieurs nationalités, des soldats blancs de la province séparatiste du Katanga à l'époque, qui refusaient de réintégrer le giron du Congo indépendant.
Quelles archives avez-vous retrouvées?
Il y a beaucoup d'archives auxquelles il est difficile d'accéder à l'ONU, au siège, à New York. Il y a les archives diplomatiques belges, anglaises, françaises, sud-africaines, américaines aussi dans une certaine mesure, mais beaucoup de ces archives n'ont toujours pas été déclassifiées. On se heurte à une forme de mur du silence de la part de plusieurs grandes capitales aujourd'hui, et c'est assez difficile à comprendre.
Et vous avez également retrouvé des témoins, dont des mercenaires français et belges qui étaient dans la région à l'époque. Que vous ont-ils raconté?
Il y a un pilote de chasse mercenaire belge, toujours vivant à Bruxelles, Roger Bracco. Lui nie obstinément avoir été mêlé de près ou de loin à une attaque éventuelle de nuit sur l'avion qui transportait le secrétaire général de l'ONU, mais il confirme que cette poignée de pilotes casse-cou dont il faisait partie était capable de voler par tous les temps et pouvait très très bien théoriquement abattre un avion, ce qui a toujours été contesté par les partisans de la thèse de l'accident depuis le crash 1961. Et puis il y a un mercenaire français retraité, Paul Ropagnol, qui me confirme que la poignée d'affreux de ces soldats de fortune français envoyés à l'époque au Katanga, ils étaient bien des officiers en mission commandée envoyés par le régime gaullien de la Ve République.
À quel point cette implication de mercenaires français au Katanga était voulue par Paris? Est-ce qu'on en sait un peu plus aujourd'hui?
On sait aujourd'hui, contrairement à ce qui a longtemps été dit, que la France lorgnait sur le Katanga. Paris envoie des mercenaires, entre guillemets, pour préparer éventuellement une reconnaissance officielle du Katanga par la France si jamais cette indépendance, cette sécession pouvait être confirmée au niveau international. Et malheureusement, ces mercenaires français se heurtent à des contingents de casques bleus qui, eux, veulent faire rentrer le Katanga dans le giron du Congo. Ils vont tuer des casques bleus, on le sait aujourd'hui, et ils vont se livrer à une guérilla insensée au point d'ourdir un complot pour assassiner les dirigeants de l'ONU au Katanga.
Donc ce serait pour des raisons financière, minière, que la France aurait misé sur la sécession katangaise au début des années 60.
Oui, et puis il y a une dimension politique, idéologique. On commence à parler de la France-Afrique, qui est déjà un petit peu sous la coupe de Jacques Foccart, la cellule des affaires africaines et malgaches de l'Élysée. Et Paris essaye de voir si, par hasard, il ne serait pas possible d'étendre l'influence de la France à ces immenses territoires d'Afrique centrale que la France convoitait évidemment depuis bien longtemps, depuis le congrès de Berlin en 1885.
On sait aussi que le profil de Dag Hammarskjöld, le secrétaire général de l'ONU, ne plaisait pas à grand monde à l'époque.
Oui, Dag Hammarskjöld dérange depuis longtemps. Il dérange la France et le Royaume-Uni depuis le fiasco de l'expédition de Suez en 1956. C'est lui qui s'est envolé sur un coup de tête, parti en première ligne pour négocier un cessez-le-feu avec Nasser. C'est aussi lui qui essaye de faire monter l'affaire des événements en Algérie, de la guerre civile en Algérie au Conseil de sécurité. C'est donc quelqu'un qui essaye à chaque fois de trouver un moyen d'offrir un rôle nouveau et inédit à l'ONU dans un contexte évidemment de guerre froide où il est très difficile pour cette organisation internationale de combler le vide laissé par les anciennes puissances coloniales en Afrique et en Asie.
Quels éléments nouveaux votre ouvrage apporte-t-il par rapport aux autres enquêtes journalistiques qui ont été publiées ces dernières années?
On a pu rassembler un faisceau concordant de témoignages de gens au sol cette nuit-là, qui ont vu un deuxième avion surgir de la pénombre pour ouvrir le feu sur le gros avion, le DC-6 qui emportait Dag Hammarskjöld et une quinzaine de passagers. J'ai retrouvé plusieurs de ces témoins. L'un d'entre eux est un Sud-Africain qui s'est retrouvé sur son scooter juste à côté du site de crash et qui s'est fait braquer par un soldat blanc qui lui a dit de déguerpir au plus vite.
Et donc c'est la thèse qui ressort de votre ouvrage, ce deuxième avion qui viendrait tirer sur celui du secrétaire général de l'ONU.
Oui, on a identifié avec plusieurs autres chercheurs le type de l'appareil. C'était un bimoteur, un Dornier 28, qui était probablement en embuscade. On retrouve sa trace 36 heures plus tard à Brazzaville. Mais les archives du Congo-Brazzaville n'ont toujours pas parlé. On attend encore, grâce à l'ONU, grâce à l'enquête en cours, que ces archives puissent être ouvertes et qu'on puisse en avoir le fin mot, qu'on puisse identifier l'équipage de cet appareil, qu'on sache enfin qui a abattu le DC-6 de Dag Hammarskjöld.
Et qui a abattu et qui a donné l'ordre d'abattre. Il manque encore des archives pour le savoir.
Oui, deux pays notamment, le Royaume-Uni et l'Afrique du Sud, refusent obstinément depuis 3 ans de coopérer avec l'enquête officielle en cours, avec ce juge tanzanien, Mohamed Chande Othman, qui a demandé à maintes reprises à Londres et à Pretoria de coopérer, d'ouvrir leurs archives confidentielles. Il se heurte lui aussi, depuis donc plusieurs années, à un mur du silence.
Merci, Morin Picard.
Merci beaucoup.